We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les podcasts de Doc. Pantatus.net.
C'est Louis, les poulpettes et les poulpes.
Une fois n'est pas coutume, nous revoici dans la, cave de Doc pour faire, comme à ma nouvelle habitude, nous sommes le 17 décembre 2014, il est 21h20, parce que, bon, bien sûr, un podcast, ça s'improvise pas. Hein. Il nous faut au moins 20 minutes pour tout préparer. J'ai à mes côtés deux personnes que vous commencez à connaître, parce qu'ils sont souvent là, Dark Keeper et Sergissant. Finglui, messieurs.
Oui.
Merci de nous avoir rejoints pour ce podcast particulier qui va en effet être dédié au système de jeu, aux différents jeux de rôle que on a pu considérer comme soit purement pulpique, expressément octulien, et puis les systèmes un peu adjacents qui peuvent permettre de gérer l'horreur ou qui s'inspirent de Lovecraft ou qui permettent de faire des aventures un peu horrifiques. Donc ce podcast risque de se séparer en plusieurs items, plusieurs échéances. On s'est dit que pour séparer les choses, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait commencer par les systèmes un peu génériques, c'est-à-dire les systèmes qu'on connaît tous, du style le système sans détour, le système sans détour et tout ça, puis pour dériver après sur les systèmes un peu hybrides, voire les systèmes qu'on peut considérer comme des jeux de rôle ou pas.
Des systèmes exotiques.
Voilà, on va dire indie pour faire classe et pour faire dans le move, quoi.
Non-euclidien pour faire scientifique.
Voilà, douteux, t'as raison. Pour rester dans le thème, il faut dire non-euclidien, t'as raison. Donc, le principe, c'est que, pour être précis, on n'a pas tous joué à ces systèmes. On n'a pas forcément eu le temps de le faire. À minima, je dirais, certains d'entre nous les ont survolés, les ont testés, on a entendu parler, ou peut-être les jouent depuis des années. Et le but, c'est de vous donner un petit peu, déjà parce que vous ne les connaissez peut-être pas, et puis de vous donner un peu, de façon objective, les lignes directrices, les spécificités de ces systèmes, et puis de façon subjective un peu, si on a pu les tester, ou si on a ressenti à la lecture, de vous dire un peu ce qu'on en pense. Parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément satisfait du bon vieux des pourcentages. J'ai fait le tour du sujet, messieurs, en présentation.
Je pense, oui.
Ouais.
Deck. Donc, bah, on va commencer. Tout seigneur, tout honneur. On va commencer par le fameux descend, le fameux système Chaosium avant la refonte sans détour. Vous l'avez tous les deux pratiqué.
Oui. Il y a longtemps, mais oui.
Très longtemps, mais ouais.
Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut faire une petite présentation rapide?
Trop longtemps pour moi, désolé.
Ouais, pour moi, le problème, c'est que j'étais que joueur là-dessus, et quand on est joueur, c'est vrai qu'on ne voit pas trop les du système. C'est un système où on n'avait pas vraiment ses idées.
Le principe du système avant la refonte sans détour, c'est le système Chaosium classique, donc caractéristique souvent de 3 à 21, compétences en pourcentage, avec un pourcentage de base fixe, 5, 10, 15, 20%, quelques pourcentages dépendants de caractéristiques, mais la chose était très rare, il y avait l'esquive, qui était la dextérité fois 2 ou 3, des choses comme ça. La grosse différence qu'apporte l'appel de Cthulhu par rapport au système Chaosium de base, c'est la santé mentale, qui à cette époque-là est à la fois une compétence, la compétence étant 99 moins votre score en mythe de Cthulhu, en compétence mythe de Cthulhu. Donc elle descend au fur et à mesure que vous apprenez vos horreurs, et c'est là-dessous que vous faites votre G, et vous avez un score aussi en pourcentage, mais lui qui est une jauge, qui elle va descendre à chaque fois que vous serez confronté à de l'horreur. Donc quand vous ratez un G sous 99% moins le mythe de Cthulhu, vous perdez des points en santé mentale, la jauge. Donc ça, c'est un peu l'idée. Dériver des caractéristiques, donc il y a l'idée, la chance, des choses comme ça. C'est le système à base de compétences de crédit, des compétences de TOC, forcément. Et il s'accompagne des trucs de base du style bonus aux dégâts, du style point de vie, point de magie. Avec point de magie 0, vous êtes inconscient. Point de vie descend en dessous de 3, vous êtes inconscient. 0, vous êtes mort. Pas de localisation particulière. Et la confrontation entre caractéristiques qui se fait via une table de résistance. C'est-à-dire, vous regardez le pourcentage attaquant, le pourcentage défenseur. Vous comparez et ça vous donne un pourcentage que l'attaquant doit faire pour vaincre le pourcentage du défenseur. Donc voilà un peu le système. Bon, pour être assez simple, les plus, et qui resteront des plus, j'irai très longtemps, c'est la simplicité. C'est un système très très simple. Alors, d'où vient sa simplicité ? C'est principalement du dessin, du pourcentage, qui permet, tout le monde connaît le schéma du dessin. 1% c'est pas bon, 100% c'est super. Et puis le côté très rapidement, on se sert que des compétences. Et ce qui fait que c'est assez simple, c'est que des compétences en pourcentage, puis les points de vie, les points de magie, ça reste assez anecdotique pour que les gens n'aient pas forcément à s'en soucier. Et ça fonctionne plutôt bien. Des questions sur ce système-là, sur ce système.
Non, peut-être quand même une précision, mais je pense que c'est quand même l'un des premiers jeux à avoir intégré vraiment la santé mentale comme caractéristique à part entière.
J'en dirais même plus. L'appel de Cthulhu, de mémoire, est le premier jeu qui proposait une alternative à la mort physique du personnage. C'est-à-dire qu'on pouvait, c'est le premier jeu où on pouvait devenir fou au lieu de mourir.
Et alors ça a été étendu comme principe à Stormbringer, le jeu normand d'Elric, qui lui aussi avait une dose de santé mentale. Et puis on le retrouvera, je ne sais plus un chronologiquement, mais aussi on retrouvera la folie. Dans le monde de Warhammer. Chose comme ça, mais c'est vrai que c'est le premier, les premières fois où ça a été introduit, après des jeux comme RuneQuest, tout ça, qui utilisait déjà le système Chaosium, mais sans avoir un style de folie. Alors, pour faire simple.
En fait, il y avait de la volonté de mémoire dans le système Chaosium avant, dans RuneQuest, mais il n'y avait pas en fait d'impact aussi marqué que ça, quoi.
Non, tout à fait, non, c'était pas. C'est la grosse nouveauté, c'est la grosse nouveauté qui apporte ce système-là. Par contre, il y a ces deux côtés, le côté simple, le côté, les compétences qui veulent dire quelque chose, on n'a pas besoin d'inventer 30 000 trucs, on a ses idées. Et derrière, par contre, il y a les moins. Les moins, c'est qu'on se retrouve avec une échelle de pourcentage qui est assez énorme. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des subtilités difficilement, je dirais, perceptibles, entre 56%, 57, 58, 59, sachant que quand on progresse, ça bouge pas beaucoup. Donc ça fait quand même une grosse échelle sur laquelle on a vraiment des difficultés à se positionner.
Quelle est la marge de progression si on a une.
La marge de progression, c'est dans mon souvenir, il faut faire l'expérience.
En fait, pour faire simple, les marges de progression, on n'évolue quasiment pas, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est beaucoup un système qui est aussi fait pour du one-shot, et qui en campagne est assez laborieux pour l'expérience, et qu'en fait, tu as très très peu d'expérience.
Le principe de l'expérience dans ce système-là, je crois me rappeler, c'est vous cochez les compétences que vous avez utilisées pendant la partie, et en réalité, vous faites agir à la fin de la partie au-dessus de la compétence, enfin en dessous, mais au-dessus, et si vous le réussissez, vous gagnez soit à 17%, vous tirez, soit 3% automatiquement, c'est à vous de choisir.
D'accord, c'est bien pensé le. Ça veut dire que plus on a un score élevé, plus on aura du mal à évoluer.
Voilà, exactement. Par contre, on s'aperçoit assez rapidement que gagner 1%, ça ne peut pas être grand-chose. Et par contre, on peut se dire,
plutôt qu'une échelle comme ça, est-ce qu'on peut avoir une échelle à base de 5%? Et finalement, on se retrouve avec un D20.
Ça pourrait être une idée comme ça. Et moi, ce que j'avais trouvé dommage sur le système d'expérience, c'est que on passe quasiment un quart d'heure, 20 minutes à la fin de la soirée juste pour faire ça. Quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est fatigant.
Puis c'est pas très drôle, quoi. Alors, en plus, il y a la table de résistance qui est pas très utile, parce que voilà, vous l'avez pas sur votre fiche de perso, c'est pas hyper lisible. Il y a très très peu d'aide finalement au background de la personne. On ne vous demande pas de définir des cercles de connaissances, on ne vous demande pas de définir des problèmes ou des choses comme ça. Il y a le fait que les compétences, en réalité, votre score en compétences dépend principalement de votre éducation, de votre intelligence. Ce qui veut dire que si vous faites un métier manuel, on ne se sert pas de votre dextérité, donc c'est un peu bizarre. Il y a le fait aussi que les compétences en elles-mêmes, leur score de base ne soit pas lié aux caractéristiques, ce qui était le cas dans RuneQuest.
Ouais, ouais.
De se dire que par exemple l'intelligence va impacter de base vos scores en compétences reposant sur elle. Et finalement, c'est ce qu'on s'aperçoit assez rapidement dans l'utilisation, c'est qu'on finit toujours par créer deux styles de personnages.
C'est vrai que le système également favorisait ça. De moi, on avait vraiment des archétypes très marqués.
On se retrouve le dilettante, le journaliste. Il faut qu'il y a le mec qui a le bon score en TOC, le mec qui a le bon score en bibliothèque, le mec qui a le bon score. On tombe très vite dans ces travers-là. C'est un système qui fonctionne, qui a le gros mérite d'introduire la santé mentale. Par contre, on peut se dire, parce qu'on le verra plus tard dans d'autres systèmes, le problème c'est que la santé mentale, enfin, l'impact de la folie, ne se fait pas ressentir sur les autres GND. C'est-à-dire que vous pouvez être au bord de la folie et finalement continuer à faire des GD normaux. Ça n'a pas d'impact, comme ça peut l'avoir par exemple dans un système comme Z-Corps, où au fur et à mesure que vous perdez en santé, vous montez en folie, ben, c'est là que vous gérez en compétences physiques d'abord, qui vont être problématiques, puis en compétences de réflexion, des choses comme ça. Quoi.
Alors que de mémoire, il n'y avait pas un malus pour quand on est blessé, justement au niveau des GD.
Dans le premier système, je sais plus. Je crois pas. Je crois pas que ça dépend peut-être que quand on était. Je sais pas trop. Je m'en rappelle plus ça. Mais bon, c'est un système simple. Mais c'est un système qui, de son côté simple, est limité finalement à ce qu'on peut créer, à ce genre de choses. Donc, il a rapidement évolué. Je sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres remarques sur le premier système.
En fait, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est surtout un système historique. Donc, je pense que c'est le genre de système que c'est sympa d'essayer pour se faire une idée, genre un one shot. Mais maintenant, avec les systèmes qu'on propose, je pense que on peut facilement trouver un système plus adapté à nos attentes, quelles qu'elles soient.
Ah, surtout que les joueurs ont pas mal évolué.
C'est ça.
Comme on a vieilli, on a moins de temps pour créer les personnages, donc on a envie d'être plus accompagné, de faire des personnages plus typés. On a envie de faire des. Comme on a beaucoup joué, on a envie aussi de faire des personnages plus spécifiques, avec des défauts, des qualités, des choses comme ça. Et puis, pour éviter, je dirais, les simples éternels, vous recevez une lettre de votre tante. Le background un peu forcé permet d'avoir de donner pas mal de clés au maître du jeu, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il a évolué de façon assez logique vers le deuxième système qui est apparu maintenant, je ne sais plus combien ça fait de temps, 2-3 ans chez Sans Détour. À l'époque, je me rappelle, j'avais été contacté par Christian, le chef de chez Sans Détour. et puis je l'avais remonté, ben, moi les idées que je pensais, c'est vrai que c'était pas forcément une refonte totale, je dirais, on n'était pas descendre, des choses comme ça, mais c'était simplifié, amélioré, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut décrire?
Là, celui-là encore, je n'ai pas eu le plaisir d'y toucher.
Pas que ça va venir.
Oui, ça va venir. Ouais.
Moi, c'est vrai que moi, j'ai vraiment commencé Cthulhu avec ça. Bon, j'ai été joueur sur les versions précédentes, mais ça remonte à très très loin.
Tu peux nous dire sur la version 112?
La version 112, hein. En fait, c'est une version qui ressemble énormément à la version Chaosium, pré-D7. Pareil, système de dessin, système de caractéristiques, des compétences en pourcentage. Et toujours la scène qui est vraiment présente et qui a une place prépondérante. Après, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les mêmes avantages, à savoir un système qui est somme toute facile à utiliser. On sait facilement quelles sont nos chances de réussite quand on a 5% de nos compétences. Alors on sait qu'on peut essayer. On va faire qu'essayer. Et puis, par contre, des petites choses qui sont plutôt bienvenues, comme les cercles de connaissances.
Ouais.
C'est vrai que pour un gardien, c'est vraiment génial parce que ça permet de cibler un peu plus le BG du joueur et de l'intégrer un peu plus dans la fiche de perso. C'est vrai que là aussi.
Pour le côté pourcentage, c'est bonus-malus. Et il y a le côté des paliers, 10%, 20%,
30%. Oui. Alors, c'est vrai que Sans Détour déjà conseille de faire que des chiffres ronds. C'était quand même beaucoup plus facile à calculer. Mais après, c'est vrai que c'est plus facile après à gérer au niveau des jets, quoi.
Alors ça, c'est assez marrant, parce que si on y réfléchit, on est quasiment au D20.
Ouais, finalement, ouais.
Finalement, on est assez proche.
Mmh, ouais.
Un bonus de 10%, ça fait plus 2. Un bonus de 1%, ça fait plus 4. Mmh. C'est vrai que cette simplification du fait de être sur une échelle de 5%, c'est finalement on est sur un D20 quasiment.
Donc après, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les petits problèmes des versions précédentes, à savoir des caractéristiques qui sont liées à l'éducation et à l'intelligence.
Mmh.
Donc comme tu dis, on fait un manuel, on va pas faire des masses de compétences. Par contre, je ne me souvenais pas qu'il y avait dans les versions précédentes la possibilité de jouer en plusieurs niveaux de difficulté ou d'horreur, passant du pulp à l'horreur lovecraftienne. Donc c'est vrai qu'en suivant la façon dont le gardien va orienter la campagne ou juste le scénar, ben on va avoir quand même des différences de x2, voire x3 presque, au niveau des points qu'on va allouer aux compétences.
Il y a aussi, je ne sais pas si tu en as parlé, des jets en compétences combinées. Le fait de faire un jet.
Enfin, j'utilise pas beaucoup ça, mais c'est vrai que quand on a par exemple plusieurs compétences qui peuvent s'associer, on va pouvoir également effectivement. Combiner ça, puis se faire aider aussi des autres. Donc c'est vrai qu'on a moyen de. On a beaucoup plus de flexibilité par rapport au type de test qu'on peut demander.
Finalement, ce qu'on voit dans ce système-là, c'est un système comme celui que j'ai décrit, donc le premier système de Chaosium, mais avec plein de petits plus, plein de petites améliorations, simplifications, oui.
C'est vraiment une V6, quoi.
Voilà, c'est un peu ce qu'on a utilisé par nous-mêmes depuis la V5. Il a d'ailleurs dans une version officielle. Il y a toute la partie que tu n'as pas parlé de l'aplomb et tout ça.
Alors oui, effectivement, l'aplomb, ça c'est vrai que c'est assez sympa. En fait, c'est une sorte de bouclier anti-perte de folie. C'est-à-dire que plus on va avancer, par exemple, surtout si tu veux passer dans une campagne, plus on va voir de l'horreur, et donc plus on va être résistant à l'horreur. Et en fait, ces points d'aplomb, justement, permettent d'éviter des pertes de points de santé mentale, mais également permettent, si on les grille complètement, de relancer un. Enfin, même pas de relancer un test, c'est de changer la réussite d'un test. C'est-à-dire qu'on passe de l'échec simplement à la réussite, de la réussite à la réussite spéciale, et de la spéciale à la critique. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir, en fait, voilà, sur un jet de dés pourri, finalement, sauver un peu la mise, et si c'est vraiment trop pourri, au moins sauver des meubles.
Je sais plus si on peut les utiliser aussi en mode horror Lovecraftienne ou pas.
Alors en fait, en horreur Lovecraftienne, on n'a pas d'aplomb, on commence avec rien. En pulp, on commence avec, je crois, un ou deux points d'aplomb.
D'accord, c'est ça. C'est
donc, en fait, voilà, quand je parlais des différents modes de jeu, c'est vraiment des modes différents. On n'a pas juste des points de plus parce qu'on joue en pulp. C'est qu'on peut vraiment faire plus de choses en pulp. Faire vraiment des gros coups d'éclat à la Indiana Jones et donc ce qui est logique avec la façon dont on joue, ce qu'on va pas trouver par exemple en horreur Lovecraftienne où là on joue vraiment du Kidan moyen et pour qui un test raté, ben, c'est un test raté avec toutes les conséquences que ça a.
Là, c'est vraiment une nouvelle façon de jouer là. Une nouvelle direction, une façon dont moi, je joue beaucoup de cette façon-là, avec la première version de l'appel, mais c'est vrai que c'est une version qui, cette fois-ci, est intégrée. C'est-à-dire qu'il y a,
voilà.
Il y a des vraies règles, il y a ce qu'on pourrait donner à tout, on pourrait apparenter ça au point de destin, ce qui permet de t'embrasser un petit peu. Il y a pas mal de choses, comme ça qui s'ajoutent.
Et un dernier point moi, que j'apprécie énormément avec la version sans détour, et qu'on a un bouquin de règles complet. C'est-à-dire qu'on n'a pas à aller chercher dans le supplément qui est paru dans tel bouquin, mais seulement telle édition et pas la suite d'après parce qu'ils l'ont zappé, pour trouver le point de règle qu'on veut. Non, là, vraiment, on a toutes les règles. Et après, ils se sont vraiment cantonnés à sortir du scénario, de l'aide de l'ambiance, on va dire. Avec éventuellement quelques spécificités, je prends par exemple sur les montagnes, effectivement là on va avoir le pilotage de traîneaux à chiens. C'est vrai qu'à New York, en plein été, on va pas se balader avec des traîneaux à chiens. Donc là effectivement ils ont vraiment eu la bonne idée de rassembler toutes les règles, et quelle que soit l'époque à laquelle on joue, parce qu'on va avoir également des caractéristiques d'armes de 1980. Donc si on veut faire du Delta Green sans avoir le bouquin de Delta Green, il n'y a pas de souci, hein, on a le bouquin de base. Et donc en fait derrière, on a vraiment plus que du scénario ou du contexte.
Je dirais qu'ils ont plus permis ça du fait de l'historique.
Aussi.
C'est-à-dire qu'ils ils ont pu ne pas le faire, mais ils arrivent à un moment donné où ils ont tout un passif de suppléments, et c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de compilation. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour jouer dans plusieurs époques, alors qu'au début, l'appel de Cthulhu, c'était plutôt orienté 1920 pur, et vous avez des suppléments pour 1890, pour 1990, et c'est vrai que c'est eux qui apportaient les règles. Donc, des questions, des remarques du Dark Keeper sur ce système sans détour.
Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des infos essentielles au MJ que le MJ doit avoir sous les yeux pour que la partie se mène bien? Par exemple, pour la version précédente, vous nous parliez de la table de résistance. Est-ce qu'on retrouve ce même élément que si on l'a pas sous les yeux, c'est ennuyeux?
Alors, non, il n'y a pas vraiment ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'écran aussi a été plutôt très bien pensé. Et il y a même le fascicule qui permet de voir un résumé de la création. Je crois qu'il est disponible gratuitement en PDF. Donc les informations sont vraiment bien groupées et rien qu'avec l'écran et puis le fascicule de création, on peut tout à fait s'en sortir sans avoir le bouquin avec les sous les yeux, je pense.
C'est dire que c'est peut-être l'un des meilleurs écrans que j'ai pu voir. Il est vraiment complet et il y a même un truc très con, hein, c'est l'échelle de 1 à 100 avec le cinquième pour calculer les réussites spéciales. Donc est une on va dire un petit bonus à la réussite et aussi toutes les compétences qui sont listées dans l'ordre où elles sont présentées sur la fiche des joueurs.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'on quand on veut faire un test, on n'a pas à dire attends bouge pas, j'en prends ma fiche
de joueur.
Ouais, voilà, c'est...
Qu'est-ce qui existe comme compétence? Qu'est-ce que tu peux faire comme test? Non, on a tout sur l'écran.
Le fameux voilà. Passe-moi ta fiche pour voir.
Exactement.
Ouais.
Les trucs que t'as oubliés, ça je dis ça, c'est qu'ils sont aussi rajoutés des règles de gestion des tailles des monstres et des gestions aussi des poursuites.
Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, effectivement.
Avec les détails.
On a un système qui est aussi beaucoup plus réaliste.
Donc voilà, donc en réalité, la V6, on va dire, une grosse quand même évolution, pas révolution, mais une grosse évolution de la V5 et des versions précédentes. Il faut juste savoir que de la version 1 à la version 5 de la belle, il n'y a pas eu de masse modif, c'était pas énorme. Et donc, cette année, puis l'année prochaine, je deviens un Kickstarter que j'adore. J'avais le V7 qui est déjà arrivé chez Chaosium et qui après arrivera chez Sans Détour. Si je les sépare, c'est à dessein parce qu'elles seront, comme on le réserve toujours, Sans Détour différentes. Donc pour la V7 que j'ai pu potasser, donc je sais pas, vous avez participé au Kickstarter?
Non. Disons que Kickstarter, j'en ai à peu près le même avis que toi, bon, donc il faut vraiment que le projet soit convaincant pour que je mette des sous.
Donc le problème de la V7 de Chaosium, c'est que ils n'ont pas eu la V6 qu'on a eu nous.
Uh-huh.
En réalité, ils ont eu la V5, puis la V5.5, la V5.6. Ils n'ont pas eu de vraie V6 se basant finalement sur ce qu'ils avaient fait Sans Détour. Donc, les premières choses que je peux vous dire, c'est que finalement, cette V7 inclut énormément de ce qu'on avait déjà dans la V6 Sans Détour.
D'accord.
Donc, si je liste un peu, les gros changements qu'elle apporte, c'est par exemple la chance qui devient une caractéristique à part entière, la chance donc des tables pour la création, histoire de finalement les fameux archétypes et puis le fait de. Qu'on ait des tables pour monter notre historique du personnage. On a la santé mentale qui, au lieu d'être dédoublée, comme elle était dans la V5, ça n'est plus que maintenant une jauge sur laquelle on fait le G. C'est-à-dire que si vous avez 89 en santé mentale, vous faites un G sous 89. Si vous perdez 5 points, là, vous faites un G sous 84. On a la simplification des compétences. Parce que les compétences crédit, persuasion, machin et tout, elles sont rassemblées. Les compétences poing, main, pied, machin sont rassemblées aussi en compétences de combat au corps à corps. On a pas mal de rassemblements de compétences pour les simplifier, donc ça c'est déjà pas mal. On a les jets de compétences combinés comme chez Sans Détour. Ils ont viré la table, la fameuse table de résistance, la table d'opposition. Maintenant, quand on fait un G, on oppose 2 G. C'est celui qui fait le meilleur qui est gagné. On a gardé le succès spécial, le succès critique. Je ne sais plus s'il était avant. Il y a un truc qu'ils ont rajouté qui est pas mal. Ça s'appelle le pushing the roll. En réalité, le principe, c'est si vous voulez de rater un G dans une compétence, le système vous propose de rejeter le G, de rejeter le dé, de refaire le même G. Par contre, cette fois-ci, vous avez soit vous réussissez, et là c'est bon, soit par contre si vous ratez, là c'est la catastrophe, c'est le fumble assuré.
D'accord.
Donc, ça permet de donner une deuxième chance, c'est assez sympa.
Il y a les circonstances qui deviennent un malus. Même chose par tranche de souvent 10%. C'est ça. Il y a une règle dédiée aux poursuites avec le fameux système du je suis loin, pas très loin, très loin, machin. Et à chaque fois que je réussis un G mieux que l'autre conducteur, je réduis la distance et tout ça. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est les principaux ajouts par rapport à la V5 de Chaosium. Sachant qu'il y a d'autres petits trucs, mais ça, on les avait déjà dans la version sans détour. Le truc, c'est que les Américains, eux, ça leur fait super plaisir, parce que ça fait 20 ans qu'ils sont sur la même version, donc ils ont un peu marre. Même pas longtemps. Mais c'est vrai que nous, du côté français, le gouffre va pas être si titanesque que ça, vu qu'on est déjà habitué à pas mal de modifs de la sonde sans détour. Je sais pas ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire.
Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Il y a quelque chose dont j'avais entendu parler, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est quoi cette histoire de D1000?
D1000?
Ouais. Ou alors je me gourre peut-être complètement, hein, mais...
Ça serait dans quelles circonstances?
Dans la V7, il me semble, non?
Mais dans quelles circonstances il apparaîtrait?
Ça, par contre, j'en sais strictement rien. De mémoire, c'était au début de l'un des derniers podcasts où tu avais fait une petite actu sur la V7, et puis il y avait une histoire de D1000, mais bon, je me trompe peut-être. Bon, bien, c'était moi. Désolé.
On en reparlera dans les forums si je remets la main dessus.
D'accord.
C'est peut-être moi qui suis passé au travers.
Alors si, il y a peut-être un truc que moi j'ai vu. Alors je me plante peut-être là, j'ai juste lu en fait le quick start que eux ont fait. Pour la V7, a priori, il y aurait des malus qui seraient en fait à lancer au dé.
Oui, un des 10.
Voilà, c'est un des dizaines. Et en fait, pour le coup, on aurait des malus variables.
Des malus de circonstance.
C'est vrai que j'avais trouvé cette idée pas trop mauvaise.
Mm-hmm. Ah oui, tu as raison. De toute façon, la V7 embarque pas mal d'idées intéressantes maintenant.
Après, honnêtement, on leur a pas filé la V6, ça aurait évité de faire une V7, quoi. Je sais pas.
C'est ce que pense tout le monde, hein, là, je crois.
Là, ça nous intéresse pas forcément dans le cadre du podcast, mais en plus, il y a une autre chose, c'est le niveau du design. En fait, la V7 de Chaosium utilise pas mal de dessins de Gromy. Vous savez que le dessinateur français, là, François Gromy, elle est beaucoup plus, sans détourienne que pouvait être une ancienne version de Chaosium, qui était toujours très laide avec des illustrations en noir et blanc toutes moches et tout ça. Donc là, c'est vrai que moi, j'ai vu. C'est ça, c'est belle bête quoi, c'est beau, c'est bien mis en page, il y a des photos d'époque et tout. Et ça reste en dessous de son détour, mais ça reste une alternative maintenant qui est plus viable et plus jolie quoi.
Après, c'est un côté un petit peu dans les éditions américaines. C'est vrai qu'ils sont pas très sur de la photo comme support d'illustration de bouquins.
Ouais.
La grande majorité, on est vraiment sur du dessin ou de la photo retouchée, mais façon dessin.
Complètement d'accord.
Plus que sur de la photo d'archives.
C'est marrant, c'est que même quand ils voient des photos d'époque, ils vous les encadrent. C'est-à-dire que c'est un petit format dans un petit encadré, sur une colonne et tout ça. Ils se permettent pas, ce qui fait un peu le charme des bouquins sans détour, c'est-à-dire les grosses illustrations pleines pages, les trucs qui font 2000 pages et tout ça.
les trucs en fond de page, enfin, ils osent pas autant, quoi. C'est des petites incrustations, quoi. C'est ça qui est assez étonnant. Donc, là, on a fait un peu le tour. Alors, on va se projeter un peu rapidement sur le portage de cette version, cette chez Sans Détour. Donc, on va passer rapidement sur la V7 de Sans Détour, qui va sortir je sais pas trop quand. J'ai ouvert d'ailleurs un sujet sur le forum de Top pour remonter un peu ce que vous attendriez à ce qui est dedans. Bon, bien sûr, ça troll, ça je m'en doutais un petit peu. il y a des règles, je ne savais pas, ce genre de choses, ne pensez pas que ça. Le but de la V7 de Sans Détour étant prendre leur V6, corriger les problèmes qu'on leur a remontés et intégrer en même temps les améliorations de la V7. Donc je pense, après je parle sans savoir, mais je pense typiquement à des pushing the roll, là, des trucs qui permettent de relancer, des choses comme ça. Quoi. C'est. Alors, d'après eux, bon, c'est tous, ce sont de bons vendeurs. Ils veulent faire la version ultime, quoi. C'est-à-dire la V6 Plus, la V6 sans défaut et tout le petit bonus.
Ouais.
Après, on verra ce que ça donne. Sur un 13 minutes, ils font toujours du bon boulot. Est-ce que ça vaudra vraiment le coup d'une nouvelle édition? Peut-être. Moi, personnellement, une vraie nouvelle édition, j'aurais vu une destruction quasi totale du système, quoi. C'est-à-dire ne plus ça descend, dégager les caractéristiques et ne garder que des compétences, faire un truc un peu chaud, quoi, rajouter le stress, folie, des choses comme ça.
Enfin, l'appel de Cthulhu, c'est quand même un sacré poids lourd. Donc, quand tu vois le coup de virage qu'ils ont fait avec des D4 et comment ça s'est terminé, je peux comprendre qu'ils ont envie de manier avec précaution, quoi.
Oui, mais... Après, il y a aussi un truc, c'est que de mémoire, Sans Détour est lié pour publier à Chaosium. Ouais. Ils doivent quand même garder ce basic system comme ossature. C'est complète. Sinon, ils sortent un Trail of Cthulhu pour changer. Mais c'est vrai qu'on est obligé de rester sur un système décent. On peut le modifier, on peut l'adapter, mais le squelette reste le même.
Parce que c'est bien, ça me pousse à le système suivant que vous avez très certainement pas dû tester, c'est le système D qui change. C'est le système des 20, car oui, Donjon a été appliqué à Cthulhu. Ils ont sorti un bouquin et puis deux, trois trucs en plus. C'est un beau bouquin, c'était il y a quelques années déjà. Donc le principe, c'est de prendre les niveaux, les classes de personnages, l'expérience, donc les XP. Hein. Vous prenez les jets de sauvegarde, vous prenez toutes ces choses-là, les
calculs,
les traits, et vous faites du tout avec ça.
Alors, d'accord, donc.
Soyons très honnêtes, c'est comme tout système, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est. C'est à tester.
Je pense que présentons-le un petit peu. Donc c'est le système comme Donjons et Dragons avec.
C'est le système Donjons et Dragons.
D'accord, donc le système de Donjons et Dragons, le set de dés,
le set de dés, la cuvette
les caracs
pour faire l'étude des persos.
Si je dis pas de bêtises, les caracs au D20, les haches au D12 ou au 2D10, ils sont jamais tombés d'accord.
Ouais, enfin,
12 ou 2D6, je sais pas. Ça change tout le temps, ça.
Bon, ce que je dirais, c'est que c'est un ovni, quoi. C'est un truc à tester parce que le bouquin est beau et puis parce que c'est original. Après, voilà, pour moi, c'est pas un système. À moins que vous soyez un ultra fan du système de donjon, c'est pas un système fait pour la pelle de Cthulhu, quoi.
Non.
les gens sont cantonnés dans des classes, ils vont chercher à choper des traits, ils vont chercher à faire des lycées et tout ça. Donc,
C'était ma première question, ça. Les professions, je suppose que ça sont transposées dans des classes, absolument.
Ah oui, t'es au niveau 3, quoi.
Alors, d'accord. En fait, le souci, c'est qu'ils ont pris le... Alors, excusez-moi, je déteste le système D&D, hein. Mais ils ont pris le tout mauvais côté de D&D, de gestion des compétences, de jet de dés alambiqués, et de calcul foireux de résistance pour tout. Et ils l'ont proposé en fait dans tout. Et c'est vrai que pour le coup, on a un système qui se veut fluide, mais qui ont fait des jets de dés depuis 30 secondes. Alors que tout loup, on a quand même besoin aussi d'avoir du punch, d'attention et passer à autre chose que de faire du jet de dés, quoi.
Et je suppose. Enfin, je ne vais pas supposer, je vais poser la question. Est-ce que, bon, vous avez peut-être pas testé, mais est-ce qu'on observe la même lenteur au démarrage, je dirais, que D&D où en gros tu fais rien avant le niveau 3? Est-ce que c'est la même chose ou tu trouves pas un indice avant le niveau 3?
Alors, non, c'est quand même plus accessible.
D'accord.
Et ça reste limité. Par contre, ce qui va sauver ce système, c'est Toc. Car en effet, sur Toc, ouais, vous pouvez trouver un système qui s'appelle le D20 décembre. D20 collé décembre. Et ça, moi, c'est un système qui a été élaboré par quelqu'un de Toc, qui est finalement fusionné les bonnes choses du nouveau système. Donc, si vous avez l'occasion, je vous conseille d'aller sur Toc.
Today we are canceling the apocalypse!